Nous allons enchaîner avec la deuxième intervenant. Donc, Emmanuel Contamin, vous êtes psychiatre. On voulait vous interroger. Donc, vous avez travaillé sur le thème de l'éco-anxiété. On peut faire tourner votre dernier. C'est le dernier, c'est ça qui
passé, oui. Après, il y a celui-là que j'ai réédité, qui était avant en auto-édition, qui a été repris par La Rose. Là, c'est autre chose, c'est un petit guide d'autothérapie, c'est-à-dire tous les exercices qui ont aidé mes patients, que, à force de les imprimer, de leur donner, je les ai rassemblés.
On va faire tourner. Avant de vous donner la parole, l'idée c'était d'avoir aussi, après le regard de l'artiste, le regard du médecin sur la question de l'éco-anxiété. N'hésitez pas à nous parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé à travailler ce thème-là. Et puis après, comment on définit l'éco-anxiété, comment on en fait le diagnostic, et puis comment on prend en charge des patients éco-anxieux, et puis tout ce que vous voudrez aborder.
Okay. Merci. Moi, je suis psychiatre en libéral et spécialisé dans la thérapie des stress post-traumatiques avec une méthode qui s'appelle l'EMDR. Qui a un peu changé ma pratique parce que ça a beaucoup dynamisé, c'est très gratifiant. On a une relation thérapeutique qui est à la fois très engagée avec beaucoup de résonance émotionnelle et puis en même temps qui est bien cadrée. Donc je trouve que ça fait grandir en humanité quelque part. Et c'est un peu comme ça que ça m'a poussé à développer deux autres grands thèmes de mon activité. C'est l'autonomisation des patients, c'est-à-dire leur transmettre le maximum d'outils qu'ils peuvent utiliser par eux-mêmes et l'accessibilité des soins. Et le gros intérêt de l'EMDR, c'est qu'on peut travailler en groupe. Ça a été vraiment montré par des études, d'abord dans des situations de catastrophes naturelles dans des pays du Sud où il y avait plein de personnes traumatisées et très peu de thérapeutes. Et donc il y a des protocoles de groupe qui se sont mis en place, qui ont été validés scientifiquement et moi je les ai pratiqués dans deux circonstances avec des groupes de réfugiés à Lyon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes les plus traumatisées sont celles qui ont le moins de moyens de se payer des soins non pris en charge, en fait. Et donc, avec deux associations, d'abord l'ACLAM, l'association qui, au niveau du diocèse de Lyon, est au service de toutes les associations paroissiales qui accueillent des réfugiés, et puis qui est bien structuré, qui est organisé une fois par an une rencontre pour différentes associations. Et puis avec Passerelle Buissonnière, qui est pas loin d'ici, qui travaille pour des femmes en réinsertion. Et puis par la suite, c'est surtout ma femme qui a continué avec Passerelle, et puis moi avec la CLAM. Donc c'était des séquences de 6 soirées pour un groupe d'une dizaine. Là aussi, on a essayé de quantifier ce qu'on faisait. Et ce qui est super, c'est qu'au moment du confinement, les locaux de l'association étaient fermés. À chaque fois, je prenais avec moi un ou une collègue que je formais sur le tas, comme ça. Françoise, la même chose de ma femme de son côté à Passerelle. Et là, le collègue que je devais former sur cette séquence travaillait au Centre régional du psychotrauma. Je ne sais pas si vous savez, suite au Bataclan que ça s'est mis en place. Avant, il y avait déjà les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui interviennent quand les plans hors-sexe sont déclenchés pour vraiment dans les 48 premières heures venir soutenir psychologiquement à la fois les intervenants de premier secours et puis les personnes elles-mêmes. Et puis, ils se sont rendus compte que, après 48 heures, il y avait encore plein de besoins de soins du psychotraumatisme. Et donc, là, maintenant, dans les 12 plus grosses villes de France, il y a des centres régionaux du psychotrauma qui sont développés, la CA Édouard Herriot à Lyon. Et bref, du coup, j'ai dit à mon collègue, mais on ne pourrait pas le faire chez toi, du coup. Et ils ont accepté, voilà, il a fallu que j'aille montrer pas de blanche et tout. Et donc, on a fait ces groupes pour les réfugiés au centre régional du psychotrauma, avec un travail de recherche qui a validé l'efficacité. Et ils ont été tellement contents qu'ils ont pérennisé le truc. Et donc maintenant, il y a une équipe dédiée qui fait des groupes de MDR pour les réfugiés à Édouard Herriot. Donc voilà, j'étais très heureux parce que ça a été un peu en accéléré le mouvement de passer de l'associatif au service public. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'au début, il dépendait encore énormément des associations, à la fois pour recruter les bénéficiaires, parce que finalement, un réfugié lambda, il ne sait pas forcément qu'il y a un centre régional du psychotrauma. Et donc, il y avait vraiment besoin des liens, des associations qui allaient les chercher, les informer, pour soutenir l'assiduité, parce que quand on a plein de trucs à gérer, il faut vraiment qu'il faut rappeler les gens, les accompagner. Et puis, pour constituer ce qu'on appelle une équipe de protection émotionnelle, parce que dans ces groupes, ce qui est vraiment très beau aussi, c'est qu'il y a donc deux professionnels, un qui tient l'ensemble du groupe, un autre qui va voir les personnes individuellement s'il y a des personnes qui ont des émotions qui débordent. Et puis, il y a de toute façon des membres des associations, des personnes dont on leur fait une mini-formation au début, qui sont là simplement pour soutenir humainement, quoi, qui n'ont aucune compétence technique, mais voilà, qui se mettent d'accord comment je peux te soutenir si ça déborde. Je pars dans tous les sens, hein, excusez-moi, c'était juste pour dire les choses qui me tenaient à cœur. Et donc l'association EMDR France, dont je suis le trésorier, a une commission qui s'appelle EMDR pour tous, dont je suis le responsable, et on essaie vraiment de promouvoir la diffusion de ces groupes de MDR au maximum sur le territoire. Pour continuer une association sur l'éco-anxiété, il y a ce qui s'appelle la Psychoteam, qui est un groupe de psychologues pour soutenir les militants qui sont soit exposés à des violences policières, soit dans du burn-out militant. Et là aussi, l'idée, c'est que s'il y a un gros truc avec beaucoup de gens traumatisés, ça sera vraiment pertinent de les traiter en groupe avec le MDR. L'éco-anxiété, moi, ça fait quelque temps que je suis éco-anxieux. Comme disait notre ami photographe, on est un peu tous à chercher à quoi on peut contribuer, en fait. Hein. Il y a un peu cette espèce de bouillonnement qui est vraiment très intéressant, je trouve. Et qui a été particulièrement fort au début du confinement. Premier confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des gens qui étaient complètement sous le choc, qui étaient avec l'école à faire à la maison, tout à gérer, c'était très, très très dur. Mais moi, j'ai eu l'impression d'être hyper stimulé et dynamisé. Je venais de terminer avec une collègue psycho qui a lancé un truc qui s'appelle Pepsi, qui sont des outils d'auto-soin avec des petits webinaires, des petites vidéos, des podcasts, des trucs comme ça auxquels j'avais participé. Et il devait juste sortir, on s'est dit, vite, il faut qu'on mette en ligne des outils gratuits pour aider les parents qui ont des enfants, comment structurer les journées, comment réguler les émotions, etc. Dans un de ces webinaires, il y avait, moi j'ai parlé de la résilience en disant à quel point c'est un enjeu systémique, parce que la résilience, la pandémie a vraiment montré que notre modèle de développement, en détruisant les espaces, les habitats sauvages, en mettant en contact des élevages intensifs avec les virus d'animaux sauvages. Ça faisait des bouillons de culture, ça finissait par se transmettre à l'homme. Et l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, avait déjà depuis plusieurs années annoncé « nous entrons dans l'ère des pandémies ». Donc le Covid n'est pas la dernière, ni la première. Et il y a parmi tout ce bouillonnement, un mouvement très intéressant qui s'appelle « Alliance Santé Planétaire », je ne sais pas si ça te dit quelque chose, où il y a beaucoup de médecins d'ailleurs, le Lancet, la revue, une revue médicale de référence, a une déclinaison qui s'appelle Lancet Planetary Health, santé planétaire pour le Lancet, qui est vraiment la revue un peu de ce courant de la santé planétaire qui dit que tout est lié. La santé des hommes, des animaux d'élevage, des écosystèmes et de la biosphère planétaire, tout est lié. Donc c'est vraiment ce que j'ai cherché à travailler. Donc j'avais exposé comme ça dans une petite conférence vidéo, et du coup il y a une éditrice qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant « est-ce que vous ne feriez pas un livre ?» Et voilà, du coup les 6 premiers mois de la pandémie, j'étais au cabinet j'écrivais ce livre. Ma femme a un peu souffert, mais c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, quoi. C'est voilà, je me suis dit à quoi je peux contribuer. Je passe très vite sur l'idée, c'est les 5 siècles, de prendre qu'est-ce qu'on a mis en évidence qui soutenait la résilience des individus. Il y a des qualités personnelles, mais c'est énormément des qualités relationnelles. Qu'est-ce qui va permettre de nourrir des liens fonctionnels avec d'autres, et qu'est-ce qui va nourrir des compétences sociales qui vont permettre de créer du lien social au-delà du cercle familial. Après, qu'est-ce qui soutient la résilience des familles? Et là aussi, un enjeu qui est majeur, qui est bien aussi autour de cette question des inégalités de santé, c'est les événements d'adversité dans l'enfance, c'est-à-dire tous les traumatismes de la petite enfance. Vous verrez ce qu'on appelle la pyramide des ACE, événements d'adversité dans l'enfance, qui fait que quand on a eu une enfance traumatisante, on a des choses qui pèsent sur notre santé à tous les stades de notre histoire, quoi, en fait. Y a déjà des marqueurs épigénétiques, c'est-à-dire des petites molécules qui se mettent sur l'ADN et qui modifient l'expression de nos gènes, qui se mettent en place quand un bébé est dans un environnement défavorable, avec une mère stressée, qui n'a pas forcément une bonne qualité d'alimentation, etc., de même dans les premières années. Et la commission des 1000 premiers jours avait bien parlé de ça, et au fond, c'est même les déterminants des maladies chroniques à l'âge adulte. Ça se met en place vraiment dans ces premières années. Et donc, si on veut faire des économies de santé et sociales, le meilleur investissement, c'est vraiment les 1000 premiers jours de la vie des enfants. Je parle de ça parce que je raconte aussi, sur cette question de l'accessibilité des soins, j'ai eu la chance de participer avec une collègue franco-colombienne, Susana Roque Lopez. Depuis 2008, elle fait des séjours thérapeutiques en Colombie pour des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, ça s'appelle le Bienestar là-bas. Et elle a montré qu'en faisant sur une semaine comme ça, 3 jours des exercices de régulation émotionnelle, de renforcement de leurs ressources, tout un apprivoisement des émotions avec des médiations par des artistes. Par exemple, là, c'était des filles de 13 à 15 ans. Le thème, c'était l'histoire du roi Arthur. Donc, quand on a été traumatisé, qu'on est placé, il y a beaucoup de mal à accéder aux émotions. C'est soit rien du tout, soit c'est un peu le passage à l'acte. Et au début, elles étaient un peu dans la provocation ou la séduction. Qu'est-ce que là, je suis là. Mon trauma, c'est qu'on m'a mis dans ce foyer de merde. Enfin. Et l'histoire du roi Arthur, c'est que c'est un enfant qui est paumé dans la forêt. Il rencontre un tuteur de résilience qui est l'enchanteur Merlin. Il fait tout un cheminement d'apprendre des choses. Et puis, petit à petit, il développe des compétences. Après, il a encore des épreuves à surmonter avec les nobles anglais qui lui mettent des bâtons dans les roues, etc. Et donc, en exprimant par le théâtre, le chant, les émotions du roi Arthur, ça permet par la bande d'accéder à ses propres émotions plus en sécurité. Donc bref, il y a 3 jours de préparation comme ça. Après, il y a 2 jours où il y a protocole de groupe EMDR matin et après-midi. Et on réévalue à la fin, parce que ça se fait par le dessin. En fait, l'idée, c'est que on partage dans les groupes, comme ça, on partage sur le positif, on partage sur ses ressources, les lieux, ce qu'on appelle un lieu sûr, c'est-à-dire un lieu de la nature où on peut vraiment se sentir ressourcé. On partage sur une activité agréable qu'on aime bien faire, enfin là. Et tout ce qui est du trauma, par contre, on ne le partage pas. Chacun travaille sur son trauma sans avoir ni à s'exposer, ni à exposer les autres à ses vécus traumatiques. Et c'est en dessin, voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de parler. Mais il y a des séries de dessins, parce que personne pense à l'image la pire, dessine l'image la pire, mais à combien ça la perturbe entre 0 et 10. Puis après, elle fait des stimulations bilatérales alternées comme ça, en laissant se dérouler tout ce qui lui vient à l'esprit. Puis après, elle dessine comment est l'image maintenant, à combien elle est perturbante. Et puis, on continue comme ça, ce processus. C'est hyper simple. Et on voit, à la fin du 2e jour, on voit un peu comment ont évolué les dessins et à quel chiffre les personnes arrivent. Donc, soit on voit petit à petit, les dessins s'apaisent, de 10, petit à petit ça diminue, ils arrivent à 3, 2, 1 ou 0, on dit ok, c'est bon. Et puis ça sera confirmé après par des échelles d'évaluation de stress post-traumatique que Susanna refait 2 ou 3 mois après, qui montrent vraiment que les résultats sont durables. Il y a un autre groupe de jeunes, ça baisse pas beaucoup, ça reste 10, 9, 8, peut-être 7, mais... Et puis il y en a qui se dissocient, c'est-à-dire qui se coupent de leurs émotions. Premier dessin, c'est 9 ou 10, et puis le deuxième, paf, ça tombe à 0. Donc il n'y a pas eu vraiment de travail de digestion, c'est plus une coupure de ces émotions. Et donc ces 2 derniers groupes, on les prend, ça correspond à la moitié, c'était 12 sur un groupe de 24. On les prend le dernier jour en individuel pendant qu'il y a la préparation de la fête. Et on leur fait des séances individuelles, 1 ou 2. Moi, j'ai fait des séances avec 2 filles qui avaient toutes les 2 des vécus d'inceste. Et une, ça s'est terminé en 1 séance, l'autre en 2 séances. C'est pas du tout les résultats que j'ai à mon cabinet. C'est pour dire à quel point la force du collectif, la force de tout ce qui a été vécu ensemble, de tout ce qui s'est renforcé de ressources dans la résonance, dans le partage des émotions, a mis en place en quelque sorte les bases pour vraiment une efficacité d'une thérapie accélérée. Alors donc, je disais ça par rapport au 3e cercle de la résilience, qui est la résilience collective ou communautaire. Et en fait, les collectivités locales, comme la ville de Lyon, ont des plans de résilience territoriaux. On l'a bien vu là aussi avec la pandémie, il faut maintenir des circuits d'approvisionnement en eau, en alimentation, des circuits de communication, des circuits de santé, être attentif aux personnes les plus vulnérables qui sont toujours les premières et les plus gravement impactées. Et il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus. Il y a J'ai découvert en travaillant pour le livre qu'il y a trois grosses structures aux États-Unis. Le Centre de recherche sur les maladies de Center of Disease Control de Atlanta, l'Université John Hopkins, qui est une grande université de santé publique. C'est elle qui publiait les chiffres de la pandémie, si vous vous rappelez, les statistiques de la pandémie. Et puis, il y a un centre de recherche sur les catastrophes à l'Université du Delaware qui est très intéressant parce qu'il analyse qu'est-ce qui se passe dans les situations de catastrophe. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est ni la panique, ni le déchaînement de violence, ni les pillages. De façon très, très constante, hein, ils ont étudié, je crois, 400 ou 700 situations de catastrophe depuis 50 ans. C'est la solidarité, l'entraide, et c'est exactement ce qu'on a vu au début de la pandémie. Et par contre, pour que ça tienne dans la durée, et là aussi c'est ce qu'on a vu, il y a un énorme enjeu qui est la cohésion sociale pour la résilience. C'est-à-dire, est-ce que il y a un sentiment d'équité ? Est-ce que vraiment les mesures prises sont au bénéfice de tout le monde et qu'il n'y a pas des profiteurs et que les plus vulnérables sont vraiment pris en compte ? Est-ce que les mesures atteignent justement les plus vulnérables, etc. Donc, ils ont construit un modèle qui s'appelle le modèle Copewell, hein, que j'ai écrit aussi, qui décrit les enjeux pour les collectivités locales. Il y a trois phases, hein, dans la résilience. La préparation avant, la phase de résistance au moment du choc, et puis la phase pour soutenir la reprise d'un nouveau développement après. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui est bon, ça résonne vraiment avec les besoins de la résilience individuelle et familiale. Et puis le quatrième cercle, c'est la résilience des nations, des sociétés, des entreprises. Et le cinquième cercle, c'est la résilience de l'humanité sur la planète. Et le GIEC en parle comme ça. Il décrit, en fait, il a un petit schéma qui est très parlant, qui est une sorte de couronne. Autour de la planète, qui est l'espace de la résilience, qui est mis sous pression d'une part par des facteurs biophysiques, le changement climatique, la montée des eaux, les sols qui sont abîmés, la perte de biodiversité, etc. Et d'un autre côté par des facteurs sociaux, les inégalités, les discriminations, les migrations, les conflits, etc. Et donc, il montre bien que selon les choix qu'on fait, on va maintenir, voire à terme élargir notre espace de résilience, ou il va continuer à diminuer. Et donc, l'éco-anxiété qui est en train d'exploser comme problématique. C'est une problématique qui ne peut pas être traitée qu'à un niveau individuel, mais qui doit être traitée à un niveau collectif, au niveau des écoles. Et voilà, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et au niveau de la vie sociale et des soins. Donc, là aussi, il y a un bouillonnement d'associations. Hein. On parlait de la FECOP, du RAFU, de l'Alliance Santé Planétaire. Hein. Plein de gens qui cherchent comment je peux contribuer à ça. Au niveau des écoles, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a les référentiels de l'éducation à l'environnement qui ont été publiés en octobre. Voilà, maintenant c'est quelque chose qui doit prendre une place un peu plus structurée dans l'enseignement. Donc l'éducation, ça s'appelle comment, E3D, éducation au développement durable, un truc comme ça. Et puis il y a un gros problème avec ces référentiels, c'est qu'il y a deux compétences cognitives. Ben, comprendre les enjeux de nos écosystèmes, comprendre en gros voilà, l'ampleur des problèmes. Et il y a même marqué avec la nécessité d'un grand changement de cap et la possibilité d'effondrement. Donc voilà, les enfants à l'école, on va leur dire ça, quoi. Hein. Et puis il y a une compétence cognitive qui est avoir une pensée complexe, pouvoir travailler avec d'autres, entendre d'autres points de vue, etc. Puis après, tu as deux référentiels de compétences comportementales. Voilà, avoir apprendre des comportements vertueux et puis là aussi savoir coopérer avec d'autres. Mais entre les pensées et les comportements, il y a les émotions. Et c'était quand même le grand oubli, je trouve, de ces référentiels. Et l'opportunité, c'est qu'il y a les compétences psychosociales qui ont été mises en avant par le ministre de l'Éducation, là aussi suite à une histoire de harcèlement scolaire et de suicide, hein, de dire on va faire des cours d'empathie pour éviter le harcèlement scolaire. Mais en fait, cette mise en place des référentiels de compétences psychosociales datait déjà de 2021. Et moi, à mon avis, la chance, ça serait qu'on puisse intégrer les deux. C'est-à-dire que dans les compétences psychosociales, il y a tout un travail de reconnaissance des émotions, d'apprendre à réguler les émotions, de développer la capacité à se projeter dans le point de vue de l'autre, avoir de la compassion, de l'altruisme, etc. Et à mon avis, ce serait un gros enjeu de mettre ensemble les deux pour lutter contre l'éco-anxiété des jeunes, parce que pour faire court, hein, parce que tu me dis quand il faut que je m'arrête, j'essaie de dire beaucoup de choses, mais j'en ferai 50 trop. Et puis après, on pourra plus interagir, en fait. Mais en bref, les deux voies finales communes pour l'éco-anxiété, c'est sentir que c'est des émotions qu'on partage avec d'autres, qu'on n'est pas seul à partager. Hein, ce qui rajoute vraiment une couche, c'est l'impression de l'incompréhension de l'entourage d'une part, et puis l'inaction politique d'autre part. Et c'est vraiment là aussi une souffrance qui est assez systémique, l'éco-anxiété. Et donc, une première ressource qu'il faut absolument mettre en place, c'est cette idée qu'on peut partager avec d'autres la conviction d'une urgence à faire quelque chose, et puis qu'on peut trouver une action dans laquelle on collabore et où, à notre mesure, on n'est pas dans l'impuissance, on est dans quelque chose où toute cette énergie de stress qui nous arrive trouve une façon de sortir par quelque chose de constructif. Voilà, c'était pour un peu introduire les échanges.
Merci.
Du coup, vous avez pas mal parlé de la résilience. Suite à un psychotrauma, est-ce que vous voulez dire que l'éco-anxiété, c'est une sorte de psychotrauma ?
Alors, pas seulement, oui, mais l'éco-anxiété, c'est vrai que les interventions thérapeutiques, c'est très récent. Hein, mais là, il y a eu une recherche qui a repris un peu ces différentes interventions qui dit il faut faire des interventions de groupe. Il faut que les intervenants aient eux-mêmes une posture juste, c'est-à-dire qu'ils aient eux-mêmes pris la mesure de la traversée nécessaire de l'éco-anxiété pour pas, pour pas être dans quelque chose qui ne soit pas authentique. Et il faut une approche groupale qui soit informée sur le trauma, parce qu'il y a un aspect de stress pré-traumatique. Il y a des personnes qui ont vraiment soit qui ont été exposés aux inondations, aux incendies de forêt, qui ont un stress post-traumatique classique, hein. Soit qui ont un stress post-traumatique vicariant, parce qu'on a vu les images à la télé, on a des proches qui ont été touchés, donc ça nous a touchés par ricochet. Soit par anticipation, c'est ça ce qu'on pourrait appeler un stress pré-traumatique, où des personnes sont quand même prises par des cauchemars, En fait, on passe un peu par des seuils de prise de conscience qui peuvent être un peu brutaux. Et bah oui, moi c'est vrai, j'ai souvenir la première fois, c'était. Je me suis réveillé après le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, hein, parce que j'ai jamais compris pourquoi j'avais été endormi si longtemps. Quand j'étais ado, j'avais milité pour René Dumont à la présidentielle de 1974. Donc, ça date quand même. Hein. Et puis, pour moi, c'est vraiment la mesure de l'influence sociale aussi. C'est-à-dire, on est à la fois né dans le guidon et puis on est dans un truc qui nous dit, mais voilà, tout va bien, on va trouver des solutions. Oui, ça, il y a un déni qui est vraiment très alimenté par les messages sociaux qu'on reçoit en permanence. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui nous réveille. Alors là, ça fait un effet de choc. En quelques jours, j'ai pas bien dormi, quoi. Donc on a des étapes où on a des cauchemars, des images intrusives, des ruminations qui sont vraiment les symptômes tout à fait analogues au stress post-traumatique. C'est pour ça qu'avec une collègue psychologue, on organise des stages dans des lieux un peu retirés, vraiment. Où on associe le travail qui relie, qui est la principale démarche de l'éco-psychologie. Alors, il y a quatre étapes qu'on fait en spirale. C'est d'abord renforcer des ressources de gratitude, d'émerveillement, de mesurer vraiment la richesse de nos liens à la nature et puis aussi entre nous. Après, il y a l'étape de traverser des émotions douloureuses, d'honorer nos peines pour le monde, et vraiment, à chaque fois, avec des exercices qui sont un peu pensés pour, avec l'idée qu'en compostant les douleurs, on fait émerger une énergie de mobilisation pour l'action. Parce que finalement, c'est la fonction des émotions, c'est de nous mobiliser pour faire quelque chose. Troisième étape, c'est élargir la vision, avec une vision à la fois du temps long, de réaliser toute l'histoire de la vie sur la Terre. Un très bel exercice s'appelle la marche du temps profond. On marche 4 km 6, un mètre représentant 1 million d'années. Puis de temps en temps, on dit voilà ce qui se passe à ce moment-là pour la vie sur Terre. Puis on réalise que ben, l'émergence de l'humanité, c'est le dernier mètre. Et puis après. La révolution néolithique, c'est l'ongle, et révolution industrielle, c'est la rognure de l'ongle. Et on mesure aussi l'importance de notre interdépendance avec tous les autres vivants sur la Terre. Et la quatrième étape, c'est passer à l'action. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la même structure que la thérapie EMDR. La thérapie EMDR, on commence par faire une préparation, on installe des ressources positives de la personne. Après, elle traverse les émotions douloureuses. Et en fait, les traumas, ils nous impactent parce qu'ils nous donnent une mauvaise image de nous-mêmes. On peut se sentir toujours mauvais ou sali ou coupable ou nul ou impuissant, etc. Et donc, la troisième phase d'élargir la vision, ça correspond vraiment à l'installation d'un nouveau sens de soi. Et puis, ben, passer à l'action, là aussi, quand on a fait un travail de thérapie, après, ben, dernière étape, c'est de mettre en œuvre une nouvelle façon d'être dans notre contexte de vie, quoi. Donc, on a combiné le travail qui relie des groupes de MDR, parce que là aussi, l'éco-anxiété, elle résonne avec nos vulnérabilités. C'est sûr que il faut pas dire aux gens vous êtes éco-anxieux, c'est que vous avez un problème dans l'enfance. Non, voilà, il y a un problème réel, mais les vulnérabilités antérieures viennent se surajouter à ça, et donc ça nous oblige, en fait, ça nous convoque à aller chercher le meilleur de nous-mêmes, en fait, individuellement et collectivement, quoi. Et donc, il y a ces groupes de MDR, et puis il y a une troisième modalité qu'on associe, qui est très intéressante, qui s'appelle le rituel des cinq portes du deuil, d'un thérapeute canadien qui s'appelle Francis Weller. Ça te dit aussi quelque chose? Voilà. Son idée, c'est que le deuil, dans notre société, il est complètement individualisé, alors qu'il a toujours été, dans toutes les sociétés, quelque chose de très, très communautaire, en fait. Et donc de dire ben maintenant qu'il n'y a pas tellement de grands récits religieux qui rassemblent tout le monde, qu'est-ce qu'on peut trouver comme sorte de rituel pré-religieux, disons, ou trans-religieux, je ne sais pas comment il faut dire, qui puisse soutenir le deuil. Et donc, il y a deux espaces différenciés, un espace qui est un peu l'espace de la tribu ou du village, de la communauté, où on est autour d'un feu, on chante, on danse, on tient la force de la vie, on tient l'élan vital, on se soutient mutuellement là-dedans. Et puis il y a un espace contenant, c'était une yourte là en l'occurrence, où on met cinq autels qui symbolisent cinq passages, donc les deuils des personnes qu'on aime, parce que tous ceux qu'on aime, on les perdra. Il y a les deuils qui sont plus notre histoire personnelle, c'est-à-dire les parties de nous qui n'ont pas reçu d'amour, c'est-à-dire les blessures des liens d'attachement de l'enfance, en gros. Il y a ce qu'on attendait de la tribu et qu'on n'a pas reçu, qui sont plus les traumatismes dans les relations sociales. Quand on n'a pas été intégré à l'école, qu'on n'a pas trouvé sa place dans la société, etc. Il y a les pertes transgénérationnelles aussi, et puis il y a l'éco-anxiété, c'est-à-dire il y a toutes les pertes du monde naturel qui nous affectent. Donc quand une personne sent qu'elle est prête à aller traverser une porte du deuil, elle lève la main et il y a quelqu'un qui va l'accompagner. Elle va devant une des portes du deuil et elle exprime vraiment ses émotions de la façon dont elle veut, la personne qui l'accompagne étant juste une présence ou si elle veut lui tient la main, mais rien de plus compliqué. Et alors voilà, il y a des gens que c'est très sobre et puis il y en a d'autres c'est plus intense comme expression émotionnelle. Et après, la personne revient dans le cercle autour du feu et indique à la personne qui l'accompagne comment elle a envie d'être accueillie. Si elle a envie d'être accueillie avec beaucoup de câlins ou pas trop. Et c'est un moment très beau, en fait, où la personne revient et est vraiment accueillie dans le groupe. Donc voilà, on a combiné tout ça pour faire une proposition de stage qui était magnifique. Hein. Moi, c'était vraiment... je fais pas mal d'expériences de groupe, de sessions, trucs comme ça. Mais j'avais rarement eu une telle profondeur. Donc je crois que c'est ça en fait, parce que quelle est notre principale, enfin ma principale, mais celle d'autres aussi, je crois, peur de l'éco-anxiété, c'est la peur de la régression à la guerre de tous contre tous, quoi. Ça, c'est le principal danger. Et donc de faire l'expérience qu'on peut, avec des gens qu'on ne connaît pas au début, mesurer à quel point... on peut trouver de la convergence, du soutien mutuel. C'est très porteur.
Et entre dans ce soin collectif là qui me parle beaucoup, parce qu'on essaie de travailler un peu la dimension collective du soin, par rapport à votre travail au cabinet individuel, il y a des. Enfin, c'est-à-dire que comment vous recrutez, le mot n'est pas joli, mais. Les gens qui sont soignés collectivement, c'est des gens qui viennent de votre pratique du cabinet
ou... Non, pour l'instant, c'est des thérapeutes, en fait. Soit des thérapeutes, soit des accompagnateurs des co-pratiques, avec l'idée qu'ils puissent eux-mêmes diffuser ces pratiques.
C'est plus une logique de formation, de les former.
Des animateurs, voilà, d'accord. C'est ça. Mais sinon, il y a plein de... personnes qui accompagnent le travail qui relie dans toutes les régions. Hein.
C'est difficile dans notre culture où le soin est très individuel. Alors moi, nous, on fait des séances de méditation au parc où on a des cercles de soins poétiques en forêt et je trouve que peut-être que je me mets des freins, mais dans la relation, enfin, en tête à tête au cabinet, c'est pas évident de la culture d'inviter les gens. Alors peut-être que je me mets trop de freins, mais je trouve que le passage à un soin plus collectif.
Ouais. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas tellement cette transition-là. J'avais rencontré un médecin généraliste, lui, qui, tous les mardis soirs, les gens savaient qu'à son cabinet, entre 7 et 8, il animait une séance de méditation. Quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est l'avenir, hein. Je pense même par rapport à l'éducation pour la santé, à l'éducation thérapeutique du patient, enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire en groupe.
Si je peux partager une expérience, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un atelier sur, qui était basé sur le projet Santé Unique.
Oui, OneF, c'est comme Santé Planétaire, c'est très proche. Hein.
Et on a fait, ça s'appelait l'archéologie du futur. On devait réfléchir à partir d'artefacts. Et notre groupe avait comme artefact un dépliant qui s'appelait Toutes et tous veilleurs. Et c'était les citoyens qui étaient sensibilisés à faire attention à, par exemple, s'ils remarquaient dans leur environnement qu'il y avait une espèce dangereuse pour la santé, ils faisaient une collecte de données, puis après ils informaient une plateforme du gouvernement qui, s'il estimait qu'il fallait faire une enquête sur cette espèce qui pouvait être dangereuse pour les êtres humains, après il envoyait une équipe pour faire une recherche et après donc les citoyens étaient informés. Mais ils avaient imaginé un système où tout le monde participait à prendre soin de la santé à la fois animale et environnementale et humaine. Et c'était un projet collectif. Donc je pense qu'on va dans ce sens-là dans le futur. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi changer, éduquer aussi notre manière à penser de manière interdépendante.
Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la sidération plutôt ? Comment on fait pour sortir la personne de la sidération et de l'enfermement ?
Ben oui, c'est vrai. Il y a tous les impacts qui correspondent à des impacts traumatiques en fait. La première réaction est souvent la sidération. Et c'est vrai que là aussi, c'est très très soutenant d'être en contact avec des personnes qui agissent. Moi j'aime beaucoup à Lyon l'association Anciela qui édite le guide Agir à Lyon qui recense toutes les associations engagées pour le social ou l'environnement qui sont une multitude. Hein, et je me rappelle la première fois que j'y étais, cette impression de ruche avec plein de jeunes, de trentenaires qui sont tous mobilisés, c'est hyper
stimulant.
Oui. Il y a vraiment besoin, pour pas rester enfermé dans des réseaux de pensée qui s'auto-entretiennent entre des pensées de découragement, des émotions de tristesse, un état du corps. En fait, c'est ce qu'on fait dans les soins du psychotrauma, on part vraiment de l'état du corps, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance émotionnelle, puisque nos émotions sont toujours associées à un changement de l'état de notre corps. Notre cœur bat plus vite, on rougit, on tremble, donc c'est régulé par le système neurovégétatif, c'est-à-dire le système nerveux qui régule l'état interne de notre corps. Hein. Il y a le système sympathique qui va tout accélérer pour permettre de dépenser de l'énergie, soit quand on court, soit parce qu'on a peur, il va falloir fuir, ou bien on est en colère, on va combattre. Donc le système sympathique mobilise tout pour avoir de l'énergie, accélère le cœur, on a plus chaud, le sang va vers les muscles. Puis le système parasympathique, ça permet de récupérer de l'énergie Donc quand on est en phase de digestion, par exemple, on est un peu ralenti, un peu somnolent, on est un peu froid parce que le sang va plus vers le système digestif que vers les muscles. Et donc, quand on est dans notre fenêtre de tolérance, on garde le contrôle, ça nous mobilise bien pour l'action. Mais si on sort par le haut, on fait une crise d'angoisse ou de panique, on est dans une espèce d'agitation stérile, on ne peut plus rien faire de constructif. Et si on sort par le bas, on est vraiment dans l'effondrement, la paralysie, l'impuissance, on ne peut non plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi tout cet enjeu de soutenir les résonances personnelles qui font que l'éco-anxiété va avoir plus d'impact et nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance, quoi.
Parce que tout à l'heure, j'ai mieux compris quand vous parliez de... Vous faisiez la comparaison entre stress post-traumatique et pré-traumatique. Mais la différence, c'est que le stress post-traumatique, le trauma, il est passé. Mmh. Le stress pré-traumatique, en fait, le trauma, il est toujours dedans. Voilà. Du coup, je ne vois pas bien comment... Est-ce que c'est des vagues? Il y a des moments, ok, on arrive à s'en sortir, et puis paf, on retombe dedans et...
Ouais, c'est des vagues. C'est des vagues individuelles, et puis c'est des vagues qui touchent aussi les relations aux proches. Un des gros problèmes, c'est, comme je disais, ce décalage avec les proches. Ça peut poser vraiment des problèmes dans les couples aussi, quand tu as un membre du couple qui est très impacté, et puis l'autre qui dit « mais non, voilà... » Pardon.
Et quand on est tous les deux.
Je termine juste. Hein. Mais ça, c'est ce qui se passe dans tous les traumas. Dans tous les traumas qui impactent les membres d'une même famille, chacun a forcément un tempo différent, un style de réaction émotionnelle différent, ça crée des désaccordages. C'est aussi pour ça que c'est toujours important, par exemple, quand il y a une famille traumatisée, moi je travaille toujours d'abord avec les parents pour que déjà eux-mêmes, ça ne vienne pas les éclater, et puis pour qu'ils retrouvent leur capacité contenante pour leurs enfants. Parce que finalement, la résolution d'un trauma pour un enfant, ça se fait toujours dans le lien d'attachement. Pour dire les choses simplement, un enfant qui tombe de vélo qui a très mal, il a un gros câlin, un bisou magique, ça va bien. Mais pour un gros trauma, c'est la même chose. Ça dépend vraiment du système de l'attachement. C'est pour ça les ACE, les événements traumatiques de l'enfance, c'est vraiment double peine, parce que les gens sont plus vulnérables au trauma ultérieur. Et donc, vous voyez, quand les deux sont impactés, ben c'est bien de travailler avec les deux ensemble, parce que du coup, ce qui nourrit les liens, c'est quand on partage des émotions dans notre fenêtre de tolérance. Donc quand on les partage en dehors de notre fenêtre de tolérance, ça ne nous aide pas, on se débat et on se noie ensemble. Mais quand on partage des émotions dans la fenêtre de tolérance, ça nourrit les liens en profondeur.
Et pour un enfant qui est dans la sidération, après qui, il a 12 ans, comment on fait pour en sortir? Quand ça se prolonge?
Comme je disais, quand ça se prolonge, quand on n'arrive pas à trouver une mobilisation autour de relations avec d'autres qui peuvent partager le même souci, le même désir d'engagement, c'est quand même probablement qu'il y a des résonances personnelles qui ont besoin d'être traitées.
Avec une mise en retrait, du coup, de l'enfant qui se retire du monde.
Oui, c'est ça, et c'est vrai que ça, on a vu ça aussi avec le confinement. Hein. Le plus dur pour certains, c'était vraiment le déconfinement. Hein. Et donc à ce moment-là, c'est quand même une aide individuelle qu'il faut, si la personne n'a pas le niveau d'énergie et de ressources pour bénéficier de relations groupales, ben, il faut travailler suffisamment longtemps en individuel pour leur rendre capable. Hein.
Après, ce que je trouve difficile avec les enfants, c'est que nous, adultes, on peut choisir d'être dans l'action, de s'engager, etc. Mm. Par exemple, on a une fille de 11 ans, en fait, elle veut s'engager, sauf qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Enfin...
Écoute, tu verras, il y a un numéro de Agir à Lyon, toujours en Sylla, hein, sur le collège des routes de la transition. Super bien. Tu as plusieurs associations qui interviennent dans les collèges et qui donnent les exemples de tout ce qui peut être fait s'il y a vraiment un collège qui se mobilise en lien avec aussi l'écosystème des associations locales. Par exemple, il y a des collèges où tu as le prof de techno qui met en place un atelier de réparation de vélo ou de réparation de smartphone ou de trucs électroniques avec un truc de soudure. Tu as le prof de SVT qui peut, avec une association, animer un jardin, un petit coin de jardin en permaculture. Tu as des exemples de tout ce qui peut être fait dans un collège, avec toujours l'idée de bien réfléchir à la fois au niveau pédagogique, un truc qui corresponde vraiment à ce que les enfants peuvent faire en fonction de leur âge, et en refusant les fausses actions qui n'ont aucun impact. On ne va pas juste en faire les emmerdeurs de service qui disent aux autres de ne pas jeter des papiers par terre. Là aussi, tu as une réflexion très très bien structurée. Ben, c'est Martin Durigneux qui a écrit aussi un des trucs sur voilà, les points d'attention à garder si on veut lancer une action au niveau d'un collège, d'aider vraiment les élèves, voire non, c'est une action qui va avoir un réel impact si on fait tel truc. Tu peux avoir... une gratiféria, c'est-à-dire une fête où chacun apporte des trucs qu'on partage gratuitement, au lieu que ça soit des trucs jetés. Tu as plein de possibilités qui peuvent être faites.
D'ailleurs, c'est vrai que sa difficulté à Adèle, là, qui a 11 ans, c'est qu'elle arrive, elle était dans une école primaire où il y avait pas mal de réflexions là-dessus, avec les amis, et puis là elle arrive dans un collège où elle a l'impression que dans sa classe il y a qu'elle qui a ce souci-là. Et du coup elle est presque l'objet de moquerie des autres.
Oui, c'est vrai.
Je pense au papier, parce que les enfants jettent un papier dans la cour et viennent lui dire « mais j'ai jeté un papier dans la cour ».
Voilà. Ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre les trucs. Maintenant il y a en principe un écho délégué par classe. Hein. Mais c'est vrai que là aussi il faut avoir une pensée systémique, ça va fonctionner dans la mesure... c'est exactement la même chose pour les compétences psychosociales. Hein. Apprendre des compétences psychosociales, ça marche. Si on fait travailler les parents sur leurs propres compétences psychosociales, si les enseignants, les différents adultes qui interviennent dans les établissements ont eux-mêmes fait un travail sur leurs compétences psychosociales et transmettent une exemplarité, et il faut vraiment, si on veut que les élèves ne soient pas dans l'économicité, mais soient dans une dynamique... active, oui, il y a tout un... Là aussi, j'avais vu ça après le film Animal de Cyril Dion. Il avait donné toute une série de matériel pédagogique, justement à destination des établissements scolaires, avec vraiment cette logique de pédagogie de projet, comment on construit une équipe pilote dans un établissement avec un représentant de la direction, des enseignants, des éco-délégués, des parents d'élèves, du personnel de cantine ou autre, comment on définit une action qui a toutes les chances de réussir et sur lesquelles on pourra bien communiquer, comment on boucle ce cycle-là avant de redéfinir. Enfin, il faut qu'il y ait une pensée bien systémique et bien structurée pour que ça marche.
Rebondissement. Eve, ça, par rapport à... On avait discuté de ton travail avec des jeunes dans la nature, ça, tu dois faire des...
Oui, bien sûr, ça résonne.
Ouais. Tu veux parler un peu de ce que tu...
Oui, je.
Je te prends un peu peut-être un peu.
J'ai parlé en gros. J'en ai des jeunes plutôt profil hypersensible. Donc l'idée c'était pendant une semaine dans la nature, donc plutôt des endroits sauvages. Et avec aussi un travail avec les chevaux, enfin il y avait des animaux, etc. aussi. Pour que les aider à. Il se passe plein de choses en fait dans ces stages, parce qu'en fait on les emmène hors de chez eux. Souvent c'est la première fois qu'ils partent, même qu'ils quittent la famille. Ils sont dans un endroit qui leur. Où on se sent quand même avec beaucoup de liberté. La possibilité d'explorer plein de choses, etc. Donc le matin, c'était beaucoup autour des chevaux, enfin des chevaux et des poneys, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui passent dans le travail avec les chevaux, sur l'affirmation de soi, il y a un lien immédiat assez vite qui se fait et ça catalyse les enfants, enfin ça crée à la fois du lien aussi même entre les enfants entre eux, alors que souvent c'est des enfants qui sont un peu en retrait. Et puis ça leur donne envie, donc en fait ils se lancent des challenges, quoi, ils se confrontent à des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Et puis donc ça c'était partie de la journée. Après il y a on explore, on visite, on se balade, on part avec les chevaux, etc. Et il y a une partie aussi où on fait un temps de cercle, donc là c'est justement avec des rituels, des jeux, des rituels pour des scénettes, des petites mises en scène, etc., des exercices de méditation, des choses comme ça pour et des échanges, voilà. Pour apprendre des compétences, pour apprendre à mieux gérer ses émotions, à comprendre ce qui se passe, à dépasser ses peurs.
Ah oui, mais l'éducation en pleine nature, ça serait vraiment recommandé par les autorités de santé. Hein.
Ouais.
Au moins des séquences comme ça, même si il y a des écoles alternatives où c'est vraiment. En permanence, quoi, mais c'est plus réaliste de penser des séquences, mais de vraie nature autant possible.
Juste sur l'introduction de l'IA tout à l'heure, qui disait que tout est imbriqué dans tout, et finalement en vous écoutant, je me dis ben oui, en fait on parle d'éco-anxiété, puis finalement pour soigner et se révéler, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans la nature. Là où effectivement, et plus c'est sauvage, on retrouve ça même en tant qu'adulte, hein, plus on est seul et plus c'est sauvage, plus on a peut-être un petit peu peur, on a aussi une espèce de. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de sentiment océanique qui nous bouleverse et qui nous apporte énormément de choses. Donc en fait, c'est. Peut-être que l'éco-anxiété, oui, il y a des faits qui sont là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut. Mais lutter contre l'éco-anxiété, c'est peut-être aussi être dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'on est plus conscient de ce qui se passe et des dangers de cette nature, mais ça veut dire qu'en étant dedans, peut-être un phénomène de protection naturelle qu'on va réussir à.
Absolument, c'est vraiment l'amour et l'émerveillement. Et après, il y a aussi la compassion. Tout ça, c'est des moteurs très forts. Hein, et c'est vrai que la peur, c'est un moteur plus délicat, parce que c'est un moteur qui est efficace quand il est dans la fenêtre de tolérance, mais. Quand on est sorti de la fenêtre de tolérance, c'est plus un bon moteur. C'est pour ça qu'il y a toujours ce premier travail, aussi dans le travail qui revient, sur les ressources positives, de gratitude, d'émerveillement. Et après, l'idée, c'est que si on peut ramener l'éco-anxiété dans la fenêtre de tolérance, ça sera aussi un moteur, quoi. Ce qui a été frappant, parce qu'on a fait des échelles d'évaluation, là aussi pour les 20 participants qu'on avait à notre premier stage, avant et après. Il y a des échelles d'éco-anxiété hein, qui existent, donc on a fait deux échelles d'éco-anxiété, et puis on a fait une échelle de croissance post-traumatique. Parce que ce qui est très bien à savoir, qui n'est pas toujours connu, c'est que après un trauma, on ne ressort pas à l'identique. Soit on a un stress post-traumatique, on a des symptômes qui nous gênent, une mauvaise image de soi, etc. Soit il y a des phénomènes de croissance post-traumatique, c'est-à-dire qu'on ressort avec plus de profondeur d'humanité, plus de compassion. On a un peu réorienté nos valeurs fondamentales vers ce qui compte vraiment, les relations plus que l'apparence ou ce qu'on possède. On a plus d'engagement relationnel. Enfin, on a vraiment mis ça en évidence. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les personnes qui ont fait ce stage, le niveau d'éco-anxiété, on l'a quasiment pas diminué. Parce que, en fait, elles étaient déjà dans leur fenêtre de tolérance au départ. Donc, finalement, on s'est dit, est-ce que c'est un échec ? Ben, non, ça veut dire que l'éco-anxiété, quand elle est normale, on la supprime pas, quoi. On met pas les gens dans le déni. Et par contre, elles ont énormément augmenté l'inventaire de croissance post-traumatique. C'est-à-dire un peu ce que je disais, c'est que l'éco-anxiété nous pousse à aller chercher quel est le meilleur de nous-mêmes qui va nourrir notre énergie d'engagement, notre capacité aussi de collaborer avec d'autres.
J'ai l'impression, dans ce que vous exprimez tout à l'heure, que pour avoir conscience de cette fenêtre de tolérance, on a besoin du regard, de l'interaction avec autrui.
Je pense qu'intuitivement, on le sent un petit peu tous. Ouais. Après, les gens ont une conscience plus ou moins facile et claire de leur corps, de leurs émotions, de ce qu'ils vivent. Hein. C'est aussi un apprentissage. Mais c'est vrai que les patients, souvent, ça fait partie un peu de la phase de préparation à l'EMDR, de les aider à repérer quand est-ce qu'ils sont dans leur fenêtre de tolérance ou pas, parce que tout le travail de désensibilisation qu'on fait, on veut que les gens restent dans leur fenêtre de tolérance, qu'ils ne soient pas retraumatisés, mais que leur cerveau va redigérer le souvenir de façon efficace s'ils sont dans leur fenêtre de tolérance, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est tout un travail d'apprentissage aussi.
Oui, et la question, c'est qu'est-ce qui leur permet de repérer justement qu'ils sont dans cette fenêtre-là ? Quels sont les signaux de...
Voilà, donc c'est vraiment apprendre à observer les signaux du corps, comment je suis au niveau de mon tonus, de ma respiration, de comment bat mon cœur, qu'est-ce que je sens comme ancrage dans le sol, comme conscience de mes pieds, est-ce que mes pensées sont claires, est-ce que mes perceptions de mon environnement sont complètes. Quelqu'un qui se dissocie, par exemple, il va petit à petit avoir une vision qui se tunnelise. Moi, j'ai une patiente qui disait, vous savez, il faut vite que vous interveniez parce que même mes oreilles, elles se bougent petit à petit, puis j'entends plus rien, et puis après, elle part dans l'évanouissement, quoi. Donc, il y a tout un travail d'apprentissage à conscientiser. Et d'ailleurs, plutôt qu'éco-anxiété, c'est l'occasion de le dire, moi, j'aime bien le terme éco-conscience. Parce que finalement, oui, c'est accepter de regarder en face la réalité et les émotions qui correspondent à cette réalité, quoi.
En mettant dans écho le côté juste biologique, ou alors aussi en mettant dans écho tout le système.
Tout le socio-écosystème. Okay. Maintenant, les chercheurs en écologie, ils parlent de socio-écosystème. Parce que si tu veux préserver une forêt tropicale ou un récif corallien, bah tu dois t'appuyer sur les communautés locales qui vivent dessus depuis longtemps, qui ont eu l'habitude de le préserver, d'avoir un lien sensible et charnel, voire spirituel avec leur écosystème et qui lui donne une vraie une vraie valeur, qui ont une vraie motivation. Donc il faut trouver aussi quel genre de fonctionnement économique va valoriser le travail qu'ils font et permettre que ça ne soit pas prédaté de l'extérieur. Enfin, il y a toute la question de la préservation des écosystèmes, c'est vraiment la résilience socio-écosystémique.
Et parce que vous le disiez tout à l'heure, la peur dans les camps que c'était, c'est beaucoup une peur sociale, en fait.
Oui.
C'est, oui, effectivement, une peur de l'effondrement, mais de quelles conséquences sociales ça va avoir.
Bien sûr.
Et en EMDR, vous soignez des gens, vous soignez l'éco-anxiété par EMDR ?
Non, j'ai jamais eu cette situation. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est... Si, j'ai eu des gens qui ont eu des stress post-traumatiques, qui ont été exposés directement, et là, bien sûr, toutes les catastrophes naturelles, on les traite avec le MDR. Mais quelqu'un qui serait plus dans l'anxiété anticipatrice, je l'orienterais vraiment plus vers un travail de groupe. Et par contre, si je vois que c'est un niveau très fort et que ça fait clairement résonance avec des choses de son histoire personnelle, là, je soignerais ça avec le MDR. Mmh. Enfin, là où j'en suis pour l'instant, c'est comme ça que je fais les choses. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils n'osent pas trop mettre ça en avant. Ils ne se sentent pas légitimes, ils disent, ben oui, voilà, je suis très inquiet de l'avenir de la planète, mais tout le monde devrait l'être, ou voilà, c'est une réalité, et puis c'est pas un psy qui va changer la situation, donc ils ne mettent pas ça en avant. Pour moi, c'est vraiment une sorte de vague de fond qui fait que les autres troubles anxieux ressortent, quoi, par au-dessus. Et souvent, ils en parlent à la fin de la thérapie. D'ailleurs, c'est vraiment touchant, ça fait partie de la croissance post-traumatique. Soit il y a des... Moi, je vois des adultes qui disent, mais au fond, ça ne me fait remettre pas le truc en question, qu'est-ce qui a vraiment du sens dans ma vie, qu'est-ce qui vaut la peine que je me batte pour, et je me pose la question de changer de boulot. Enfin, voilà, souvent, on dit bien, c'est les crises qui sont souvent des opportunités de changement. Et moi, il y a des... J'ai deux patients que j'ai vus à la journée de rentrée de Ancilla, du festival Agir ici. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui leur ai dit « Allez là hein. !» Alors, dans la salle d'attente, il y a un grand panneau, l'arbre de la résilience, qui présente un petit peu tous les enjeux, justement, de la résilience socio-écosystémique, les différentes associations. Bon, donc une petite perche tendue quelque part, mais je vois souvent que, une fois que ce qui était peut-être plus personnel est traité, ça ouvre un espace pour prendre en compte des enjeux plus sociaux, quoi.
Est-ce que l'éco-anxiété est universelle ? Est-ce qu'on la trouve dans toutes les populations ?
Alors oui, justement, il y a eu un grand article du Lancet Planetary Health en 2021 où ils ont interrogé 10 000 jeunes de 10 pays différents, du nord et du sud. Hein, de mémoire, il y avait par exemple l'Inde, le Nigeria, autant que la France, le Portugal. Donc c'était pas vraiment un échantillon épidémiologique rigoureux tiré au sort, mais c'était quand même ce qu'on peut, pour une telle ampleur, avoir de plus représentatif, c'est-à-dire il y a des panels de gens qui répondent à des enquêtes, quoi, et qui sont pas des enquêtes orientées sur les enjeux écologiques. Donc il y a des gens qui se mettent sur un panel pour répondre à des enquêtes, et puis ils ont des bons d'achat en contrepartie, des trucs comme ça. Donc il faut avoir un smartphone, hein, comme critère de sélection, mais même dans les pays du Sud, la grande majorité des gens ont un smartphone. Donc c'était des jeunes de 16 à 25 ans, et c'est ça qui a été un petit peu un coup de tonnerre quand même dans les résultats, hein, c'est-à-dire 39% hésitent à avoir des enfants, 58% se sentent trahis par leur gouvernement ainsi que les générations futures. De mémoire, hein, plus de 50% pensent que l'humanité est foutue.
Mais c'est pessimiste, c'est fou.
Oui, quand on voit ça, on se dit, bon sang, faire quelque chose pour nos enfants, quoi. Et puis, il ne faut pas dire, voilà, allez-y, bougez-vous les jeunes. Non, il faut qu'ils voient que les adultes se bougent, parce que sinon, c'est pas espérant.
J'ai peut-être partagé une anecdote. Tous les vendredis, on fait avec Annie qui est là, on fait un cercle de méditation dans un parc. Puis on a commencé à le faire au parc de la Tête d'Or. Donc l'idée, c'est vraiment de méditer à partir d'un poème, mais toujours en dialogue avec l'environnement. Donc il y a des séances sur, sur l'oiseau, donc on écoute les oiseaux, et puis l'idée, c'est d'amener les gens à dialoguer avec l'environnement, à être soignés par l'environnement. Et donc on était dans un bel endroit, là, au parc de la Tête d'Or, qu'on appelle le Bois du Parc, qui est vraiment un des endroits au parc où on a l'impression d'être dans une forêt. Et en fait, tout d'un coup, le parc a décidé de clôturer l'accès à ce petit bois. Enfin, c'est-à-dire que l'idée du directeur du parc, c'était de rester dans les allées. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus que les gens aillent au pied des arbres, parce que ça allait altérer... L'idée, c'était de préserver la biodiversité, et que ça allait altérer la qualité de l'écosystème du parc. Alors du coup, ça nous a mis dans une grande réflexion... puis un peu une sorte de colère, un peu. Et je pense à ça parce qu'il y a beaucoup de scolaires qui vont là-bas aussi. On voyait toujours les enfants courir dans cette nature-là. Et du coup, c'était très déroutant de dire qu'il fallait rester dans les allées, qu'il fallait regarder cette nature comme on regarde un zoo ou comme on regarde un musée.
De loin.
Et perdre ce rapport de sensualité avec... Et d'où crée c'est par la sensualité, ce plaisir-là, que naît l'amour pour les arbres. Et en t'écoutant, je pensais à cette notion de... Enfin, nos cafés, on travaille, cette notion de réciprocité dans le soin, finalement. Quelque part, je te soigne, mais tu me soignes. Du coup, il y a une sorte d'échange qui peut se passer entre un thérapeute et un soigné. Et je trouve qu'il y a aussi ça dans la nature, c'est-à-dire... J'ai l'impression qu'en vous écoutant tous, là, que dans ce séjour du parc, en fait, on perdait cette réciprocité entre je demande à la nature de me soigner, et de ce fait-là, je comprends qu'il faut soigner la nature aussi. Ça m'avait beaucoup questionné, cette tendance actuelle là, de couper la sensorialité des enfants ou des gens de la ville avec la nature. Alors ok, c'est sûr qu'on doit un peu altérer la végétation, mais le parc de la Tête d'Or sera jamais une forêt primaire, je crois que c'est... il se trouve que le projet a été arrêté, je sais pas pourquoi, ils ont commencé à clôturer, puis là, tout est depuis un an, tout est en suspens.
On sent que c'est colère.
Après,
oui.
J'ai des amis suédois qui disent qu'en France, on respecte peu la nature, on la fait peu respecter aux enfants. Il dit, en Suède, on voit jamais un enfant qui va donner un coup de pied dans une fourmilière. On ne va pas les voir piétiner, on ne va pas les voir en train d'essayer d'abîmer un animal. Donc voilà, elle disait, elle était très étonnée, elle, de notre rapport au vivant. Je parle de ça il y a déjà 15 ans, on n'entend rien. Donc elle disait, c'était vraiment un étonnement. Elle disait, quand on va dans les sous-bois, il y a des myrtilles, on ne marche pas sur les... Il y a une espèce de respect entre insectes dans leur éducation, en fait.
Voilà, c'est vrai que vous parliez une vraie révolution systémique dans l'éducation nationale, très clairement, je crois qu'on en est loin.
Je ne t'ai pas présenté complètement tout à l'heure en tant que photographe.
Je suis professeur de l'école aussi, et je fais la classe dehors depuis cette année, parce que c'est vrai que ça... C'est aussi dans la même veine, dans le même sens que ce que je fais en photo. Mais c'est très difficile parce qu'on est seul, peu formé. Il y a des expérimentations un peu ça et là. Voilà, on se documente comme on peut et on a très peu de billes pour. Voilà, on a un cap, c'est-à-dire que c'est vrai, il faut rééduquer à la sensibilité, à retrouver ce rapport à la nature. Voilà, moi, les premières sorties, dès qu'ils voyaient un ver de terre, c'est soit ils étaient dégoûtés, soit ils l'écrasaient. J'ai dit c'était, hein, ils ont 6 ans. Et ceci dit, des plus grands feraient sans doute pareil. Voilà, c'est à la fois de maintenir, enfin, éduquer à cette sensibilité, mais aussi maintenir une... Moi, je crois très fermement à ce qu'il continue à avoir une colère et une... Il faut qu'il, voilà, qu'il prenne les choses en main et qu'il soit... Enfin, je veux dire, il y a de quoi vraiment être énervé quand on voit le peu d'action que les gouvernements font de ce côté-là. C'est juste... C'est indécent.
C'est sidérant.
Alors, ce qui est intéressant dans l'approche systémique, c'est qu'on voit qu'en fait, les changements peuvent se faire par une minorité qui n'a pas forcément besoin d'une majorité. Il y a des effets de synergie qui sont multiplicateurs. C'est-à-dire que, un peu ce qu'on disait dans un collège, s'il y a... quelques éco-délégués, un directeur qui soutient le processus, quelques profs, quelques parents d'élèves, etc. Il y a un espèce de seuil critique où tout d'un coup il y a un mouvement qui se fait et puis ça devient plus tendance, j'ai envie de dire, de rejoindre le mouvement que de s'en moquer, quoi. Mmh. Et petit à petit ça s'amalgame. Mmh. Et c'est un peu, moi je compare ça à la transmission de l'influx nerveux dans les neurones, le différentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule se modifie petit à petit, et puis quand il y a un certain seuil, paf, tout d'un coup, il y a un point de bascule et l'influx nerveux se transmet tout le long de la fibre nerveuse. Hein. Et je pense qu'on voit vraiment ça, par exemple, sur les entreprises. Il y a la convergence de plusieurs pressions. Il y a ces mouvements des étudiants qui font sécession ou qui refusent. Hein. Mm-hmm. J'étais très frappé de la vidéo, le PDG de Total qui fait le discours à la promotion de Polytechnique. Mm-hmm. Un tiers des étudiants se lève et lui tourne le dos. C'était quand même fort. Hein.
Oui.
Donc il y a vraiment des mouvements au niveau des futurs salariés, au niveau des salariés eux-mêmes, au niveau des clients qui peuvent boycotter certaines entreprises, au niveau des investisseurs, avec des actionnaires minoritaires qui commencent à mettre un peu le bazar dans les assemblées générales, et puis même des fonds d'investissement qui mesurent qu'ils vont prendre des risques financiers, hein, et puis des régulations politiques. Donc quand il y a comme ça des convergences qui se font, au début on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et c'est François Jemaine, qui est un politologue membre du GIEC, qui a écrit il n'y a pas longtemps un petit livre qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus », qui explique bien ça, que tous les grands changements, il donne plein d'exemples, hein, par exemple la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, ça a été le fait d'abord d'une petite minorité, et puis en fait, il y a un moment où... la majorité un petit peu passive finalement se laisse faire parce que la minorité est suffisamment cohérente et puis apporte, ça marche quand la minorité apporte une réponse finalement à une situation à laquelle la majorité n'a pas de réelle réponse à proposer, quoi. Je me disais, ça s'arrête à quelle heure?
Entre 9h30 et 10h.
Ok. Est-ce que on pourrait rejoindre ta dynamique poétique en lisant le poème?
Oui, quand même.
Ça fait une petite respiration.
Très bien.
Donc, c'est à partir de là que tu m'as appelé. J'avais trouvé ce poème de Rilke qui parlait des cercles, et je trouve qu'il y avait plein de résonances avec ce que je disais, donc je l'ai mis en exergue du livre. Je vis ma vie en cercle expansif, étiré sur les choses. Peut-être ne pourrais-je achever le dernier, mais je veux essayer. J'aime les heures sombres de mon être, où mes sens peuvent s'aiguiser. J'ai découvert en elles, comme dans de vieilles lettres, ma vie déjà vécue et grande, et surmontée ainsi qu'une légende. Grâce à elle, je comprends. Je sais que j'ai l'espace pour une seconde vie plus vaste et libérée du temps. Et quelquefois aussi, je suis l'arbre chenu et frémissant, penché sur une tombe, accomplissant le rêve de l'enfant du passé dans les chaudes racines. Il se tient resserré, rêve qu'il avait perdu à force de tristesse et à force de chant. Toi, Dieu tout proche, si je te dérange parfois, dans la nuit longue, en toquant vigoureusement, c'est que j'entends ton souffle trop rarement et que je te sais seul dans la grande salle. Et si tu manques de quelque chose, il n'y a personne. Personne que pour te donner à boire alors que tu tâtonnes. Mais moi, je demeure à l'écoute. Fais-moi un petit signe, je suis tout prêt.
Merci. D'autres choses ? Votre réaction.
J'ai encore des questions en stock, si
je vais t'en prêter la gueule.
C'est la chouchoute.
Ça va.
Non, en fait, il y a deux choses. Je fais bien avec deux choses que vous avez dit. Tout à l'heure, quand vous avez dit qu'en fait, l'éco-anxiété, les jeunes n'osaient pas trop en parler et que c'était comme une lame de fond qui fait que les autres problématiques ressortent. C'était tellement l'inverse de ce qu'une psychologue m'a dit la semaine dernière quand je lui ai parlé de la thématique de l'éco-anxiété. Pour elle, c'était juste une sorte... Elle m'a peut-être dit ça, de mode... comme être transgenre, enfin voilà, il y a des trucs à la mode. Et l'éco-anxiété est une manière d'exprimer des... Alors, je ne sais plus ces mots, mais c'est comme ça que ça ressort, en fait. C'est des problématiques tout à fait personnelles qui ressortent. Voilà, donc, enfin, rien à voir avec tout l'inverse de ce que vous dites. Donc ça, c'est une première chose. Et pour avoir discuté avec d'autres thérapeutes classiques, j'entends... psychologue, psychiatre, médecin généraliste, il y en a pour qui c'est même pas une thématique, à tel point que les gens ne leur en parlent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a presque un on-off chez des thérapeutes psychiques, presque un on-off. Oui, ils ont compris, enfin, ils sont eux-mêmes dans l'éco-anxiété ou en tout cas dans compréhension de ça, et d'autres, alors vraiment... pas du tout. Et après, du coup, vous avez parlé aussi de cet effet de seuil-là, à partir d'un certain seuil. Et qu'est-ce que vous pensez, où pensez-vous qu'on en est justement chez les thérapeutes sur cette compréhension? Enfin, ben, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ouvert. Moi, de mon point de vue, c'est comme s'il n'y avait pas d'où. Ils n'avaient pas encore compris, en fait.
Un truc qui m'a vraiment touché. Il y avait le congrès EMDR France à Nice en novembre. Donc l'association EMDR France, c'est quand même 2000 praticiens. On était à peu près 250 sur place, le même nombre en visio. Et moi, j'avais proposé de présenter le travail sur l'éco-anxiété. Ça a été une communication qui avait été acceptée. Et en introduction du congrès, il y a toujours les officiels de la mairie. Donc un médecin, c'est Éric Ciotti à Nice, hein, c'est, ouais, pas, c'est pas la, la, la gauche, on peut dire. un médecin, conseiller municipal, vient pour dire « je suis heureux d'accueillir dans notre belle ville de Nice » qui a toutes ses qualités, voilà, cette association. Et j'étais particulièrement intéressé de voir que vous étiez intéressé sur des sujets très importants pour l'avenir, comme l'éco-anxiété. Alors moi, c'est super de la pub pour ma communication, mais de dire, c'est le gars de la mairie d'Éric Ciotti qui vient te dire ça, qui, sur toutes les communications, celle qui a attiré son attention, c'est celle-là. Parce que à Nice, ils ont eu les attentats. Ils ont les inondations de la vallée de la Roya, enfin, ils ont régulièrement des trucs. Les gens qui sont sur le terrain, les collectivités territoriales, les mairies, elles savent bien qu'il faut qu'elles se préparent aux risques naturels et technologiques. Enfin.
Aujourd'hui, elles ont eu quand même l'alerte, vous savez, téléphone, sur tout le littoral, en fait, par rapport au tsunami. Hein.
Ok.
Tout le monde a reçu là, un coup de fil, fort. Tous les téléphones portables sur la côte, et en particulier du côté de Nice, j'ai entendu la radio ce matin, ils interrogent justement des Niçois, pour faire un, voilà, une simulation de tsunami. Voilà. Bon, continuons.
Mais moi je pense que, non, au niveau des thérapeutes, moi je les sens au contraire très ouverts, très conscients. Hein. Après, ils sont à tous les salles. Le président de NDR Europe qui était là, il est venu me voir après en me disant « Mais moi, je sais que c'est foutu, de toute façon, je suis pragmatique. » Mais ça, ça fait partie aussi des mécanismes de défense, quoi, hein, de dire « Bon, ben, du coup, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine de bouger, quoi. Hein. » Mais personne n'est venu...
Pardon ? Ce qu'on voit dans certains
bien
pays
sûr.
Du Nord, en particulier.
Mais personne n'est venu me voir en disant « Écoute, crois pas que tu exagères un peu. » Je pense pas. Et puis, c'est un mouvement qui vient de... voilà, je parlais d'Alliance Santé Planétaire, de la commission des 1000 premiers jours. Après, traduction politique, c'est quand même très pauvre. Hein, la grand plan de lutte contre l'infertilité. L'infertilité, c'est quand même avant tout les pesticides, les perturbateurs endocriniens, pas beaucoup entendu parler de ça dans le grand plan de lutte contre la... Mais ça pousse de partout quand même.
Pourtant, j'ai écouté l'autre jour un expert du GIEC qui disait qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont climato-sceptiques, qui sont...
Ben, ça fait partie aussi des mécanismes de défense, c'est-à-dire, là, il y a eu une enquête en octobre 2022 qui montrait qu'il n'y avait que 57% des Français qui étaient convaincus qu'il y avait un réchauffement climatique et qu'il était d'origine humaine. Hein. Donc après, tu en as, je crois, 10% qui croient qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, 18% qui croient qu'il y a un réchauffement climatique mais dû au cycle du soleil ou à d'autres choses. Il y en a qui ne savent pas. Bon, c'est sûr qu'il y a un certain pourcentage de climato-sceptiques, mais je crois que c'est plus quand même... je me rappelle avoir entendu Jean Jouzel, qui était l'ancien responsable du GIEC, dire à partir de la COP21, les histoires de Claude Allègre et des climato-sceptiques, ça n'a plus été trop quand même le problème. C'est que ça va rester parce que ça fait partie des mécanismes de défense. Ça a été vraiment étudié, tous les biais cognitifs. Par exemple, que quand il y a une dissonance entre nos pensées et nos comportements, ben c'est beaucoup plus coûteux de changer nos comportements que de changer nos pensées. Donc si j'ai pas envie d'arrêter de prendre l'avion, je vais dire oh ben finalement l'avion ça impacte que pas grand chose en pourcentage de toutes les émissions mondiales. Enfin, j'ai trouvé, en fait on raisonne pas comme des chercheurs mais comme des avocats. C'est-à-dire souvent on part de la conclusion à laquelle on a envie d'arriver et on va chercher tous les arguments qui nous permet d'y arriver. On en trouvera toujours. Hein. Donc il y aura toujours une partie de la population qui sera dans le déni sous différentes formes, mais ça, je pense pas que ça soit le principal. Ça énerve beaucoup chaque fois qu'on dit des trucs comme ça, mais je pense pas que ça soit quand même le principal blocage maintenant. C'était par exemple très frappant la Convention citoyenne pour le climat. Tu as pris des gens tirés au sort, c'est une histoire magnifique là aussi. Hein. Même si c'est désolant qu'ils aient quasiment rien gardé, mais sur le processus même, moi je crois qu'il faut vraiment garder ça comme une source d'espoir, de se dire on tire 150 gens de tous les âges, de tous les milieux, on les met à discuter, on leur donne des informations à peu près fiables. Et ils arrivent à se mettre d'accord.
La pensée collective.
Ouais.
Et à produire quelque chose de robuste en plus.
À produire quelque chose de robuste, de cohérent. Il y avait un très beau film sur Arte, je ne sais pas s'il est encore accessible en replay, qui s'appelle Les 150, où ils ont interviewé certains des anciens membres de la Convention citoyenne. Il y en a plusieurs qui sont engagés en politique après.
Merci, en tout cas, vous êtes plein d'espérance. Parce que...
ah oui,
c'est bien, à chaque question, vous avez un truc positif.
Alors, ça, c'est quelque chose d'important, ça me permet de rebondir sur autre chose. C'est la question de la circulation de l'information et des médias. Parce que les médias ont une grosse responsabilité, à la fois les médias, puis les réseaux sociaux, et puis finalement, on a vraiment une hygiène à travailler sur notre accès à l'information. Hein. Et ça se développe de plus en plus, ce qu'on appelle le journalisme de solution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que des informations positives, mais de dire on ne peut pas annoncer des problèmes sans donner des pistes de solution. Et donc de dire, voilà, on ne peut pas dire, il y a encore... les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, et puis après, t'as la pub pour les...
Oui, tu les as.
On est en permanence face à des messages contradictoires, ou bien grosse réduction pour votre week-end à Ibiza. Donc, le journalisme de solution, je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante, et je veux dire, on dit les problèmes, mais... On accompagne ça d'exemples qui sont inspirants et motivants. De dire voilà dans quelle direction il faut qu'on aille, avoir une vision un peu large du problème et pas simplement la réaction émotionnelle de la catastrophe qui conduit à dire de toute façon on peut rien faire.
Alors, on va espérer que l'influx nerveux chez les journalistes converge rapidement vers une
bouteille. Oui. Non, mais ça bouge vraiment. Hein. Oui. Dire, ça bouge vraiment. Au festival The Green or Good, il y avait justement une fille qui fait un podcast qui s'appelle En un battement d'aile, comme ça, sur le journalisme de solution, qui expliquait que Libération, ils ont un supplément le dimanche là-dessus, qui est vraiment celui qui se vend le mieux de leurs journaux. Le Monde aussi, ils forment, en fait, il y a beaucoup de journaux dont les journalistes sont formés. Et Nice Matin, par exemple, aussi. Voilà, décidément.
Il y a Tout va bien, le magazine Tout va bien, à Lyon aussi, il y a une petite rédaction, personne n'a jamais vu.
Si, non. Je t'ai abonné.
Ils ont aussi cette démarche-là d'informer, de traiter de sujets qui peuvent être très, très graves, mais avec à chaque fois des solutions, pas des solutions, pas un problème, mais des solutions, mais des exemples, des modèles, ou des modèles d'expérience qui ont réussi,
même à s'abonner.
Et ça fait du bien de...
Bah oui,
c'est des trucs à faire. Pour la fin du monde.
Vous formez des futurs thérapeutes, vous ne formez pas des enseignants.
Alors, moi, je suis intervenu, figure-toi, on m'a demandé d'intervenir à la journée, là aussi ça donne l'espoir, hein, à la journée de rentrée, au week-end de rentrée, des directeurs des établissements catholiques du département. 200 directeurs d'établissement, ils m'ont demandé d'intervenir sur les congcités.
D'accord, mais là c'était l'initiative des
diocèses.
Oui, des diocèses. Ouais, ouais.
D'accord.
Et les enseignants, oui, je pense que là aussi on peut trouver vraiment beaucoup de points d'appui à la fois dans les ressources sur le site de l'Éducation nationale. Il y a. Quand on voit les référentiels de E3D, l'éducation au développement durable, ils donnent aussi des liens vers tous les.
C'est l'ironie du truc, c'est que je suis enseignant, je suis dans la maison, c'est vous qui m'apprenez, qu'il y a un référentiel de compétences sur l'environnement.
C'est peut-être pour les collèges.
Non, c'est pour tous les
c'est aussi pour les premiers.
Non, sans doute, oui.
Pour tous les cinq niveaux.
C'est ça qui est complètement fou dans cette institution, quoi.
Non, parce que moi, dans mon collège, j'ai mis en place, c'est pour le coup, la belle 3D, les établissements peuvent le demander, il y a des éco-clubs, il y a les éco-délégués.
Peut-être.
Ouais, faut que je me demande. Et en fait, pour l'anecdote, quoi, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la chef de cantine, donc il y a quelqu'un qui fait les menus, qui fait les commandes, qui est sorti de la cantine, et il y a tous les élèves qui sont en rang, qui attendent pour aller manger, et qui leur a dit, je veux pas avoir de gaspillage, vous prenez la dose que vous allez manger, parce que nous, quand on pèse après ce qui a été jeté, c'est intolérable, c'est pas bon pour la planète. Donc, ce qu'on mange pas, on le prend pas. Le pain, si vous prenez trois tranches, vous mangez les trois tranches, ou alors vous n'en prenez pas. Et elle leur a mis une morale comme une.
ouais, mais là, ils se sont pas moqués d'elle, quoi.
Non, mais en plus, c'était vrai, c'est tous des trucs qu'on dit en conseil d'administration. Ouais. Et effectivement, le pain est pesé pour. Parce que j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on jetait le pain à côté. Il y en a qui disaient on donne aux poules, mais il n'y a pas de poules dans le bahut. Et en fait, j'ai compris en CA qu'en fait, ils pesaient le pain pour savoir qu'il fallait pas en couper trop.
Oui, pour ajuster leur commande.
Voilà, pour ajuster leur découpe le journal.
Oui. Et pour donner un autre exemple, Congrès français de psychiatrie à Lyon, une communication d'une équipe de chirurgie, comment ils ont orienté tout le service justement dans cette démarche de développement durable, parce qu'un bloc opératoire, il faut voir ce qui sort comme déchets et ce qui entre comme matériel à l'entrée. Et au début, ils avaient la trouille de dire après le Covid, on a du mal à avoir des infirmières, il y en a qui démissionnent, est-ce qu'on ne va pas leur mettre une charge de travail très supplémentaire, on va en perdre encore plus. Au contraire, toute l'équipe petit à petit s'est mobilisée, chacun a apporté son idée, donc ils ont plus des trucs à usage unique, mais des trucs qui se lavent. Ils préparent non pas la boîte standard avec tous les instruments pour une opération, mais ils prennent juste ce qui est nécessaire. Enfin, tu as toute une réflexion. L'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, tu as dans le dernier numéro qu'on a reçu, évaluer est-ce que vous avez un éco-cabinet.
Ah oui. Il y a un label cabinet.
Ça vient de partout, en fait. Hein.
C'est vrai, c'est le papier des draps d'examen qui fait beaucoup de débats. Mmh.
Voilà.
Les médecins qui disent plus de papier de draps d'examen.
Il y a plein d'enjeux. C'est, en fait, le gros enjeu, c'est l'utilisation des médicaments. Quoi. Mmh. C'est parce que les médicaments ont un impact écologique aussi.
Mmh. Bon.
C'était formidable.
Merci beaucoup.
Oui, merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
On retrouve des